Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une rediffusion de l'épisode enregistré en 2020 avec Trantonia, qui vient de fêter ses 82 ans et continue de se battre pour les millions de victimes de l'agent orange. Le collectif Vietnam Dioxine invite à un grand rassemblement de soutien à Trantonia et aux victimes de l'agent orange le 4 mai 2024 à 14h, place de la République à Paris. Ce sera 3 jours avant la prochaine audience du procès contre les 12 multinationales de la pétrochimie, dont Monsanto et Dow Chemical. Si vous le pouvez, venez, soyons nombreux et nombreuses pour demander justice. Bonne écoute!
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage. Des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Trantonia. Trantonia est une militante franco-vietnamienne. Ancienne reporter et résistante pendant la guerre du Vietnam, elle fut intoxiquée par l'agent orange, un défoliant puissant déversé sur le Vietnam par l'armée américaine. Environ 80 millions de litres de cet herbicide furent répandus, contaminant des centaines de milliers d'hectares et détruisant 20% des forêts du Sud Vietnam. Le dérivé produit pendant la fabrication, la dioxine, est un perturbateur endocrinien hautement toxique qui a empoisonné des millions de personnes par exposition directe, affectant l'organisme par de graves malformations, cancers et maladies, et se transmettant de génération en génération. À 78 ans, Trantonia livre son dernier combat. Assistée par le cabinet de l'avocat William Bourdon, elle attaque en procès 26 multinationales agrochimiques américaines ayant fabriqué l'agent orange, au nom des millions de victimes. Ce sujet de l'agent orange est mal connu du public et souvent ignoré. Il constitue pourtant l'un des premiers écocides et l'une des plus grandes guerres chimiques de l'histoire. À la fin de l'épisode, vous retrouverez aussi Léa Dang du collectif Vietnam Dioxine qui milite pour la reconnaissance du drame de l'agent orange dans le monde. Trantonia, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vécu la guerre du Vietnam en tant que reporter à l'époque. Je crois que vous aviez une vingtaine d'années. Et vous avez été victime des épandages d'agents orange que les États-Unis avaient pris l'habitude de déverser sur le Vietnam entre 1961 et 1971, je crois. Est-ce que vous pourriez peut-être raconter en quelques mots comment... Comment cette période s'est passée de résistance et puis comment vous avez été mise face à l'agent orange?
Merci de venir quand même jusqu'ici pour me poser vos questions.
Avec plaisir.
Je vais essayer quand même de vous répondre clairement parce que je ne sais pas si avec mon français, je serai aussi à la hauteur pour tout expliquer. Donc... j'ai connu quand même 2 guerres. Quand j'étais toute petite, je connaissais déjà la guerre coloniale qu'on appelait dans le temps. Je me suis déjà préparée pour une vie assez dure. Après 1955, avec les accords de Genève, ma mère qui se sentait menacée d'être en prison, j'avais déjà 12 ans. Alors, elle a peur quand même pour une jeune fille qui n'aurait pas sa maman à côté. C'est pour ça qu'elle m'a envoyée à Hanoï pour que là, comme elle pensait, que je serais quand même bien éduquée, bien élevée par l'État. Donc, à partir de 12 ans, j'ai grandi dans le Nord, séparée de toute la famille. Et puis, après avoir terminé mes études universitaires, alors que dans le Sud, il y avait une guerre terrible, il y avait aussi tous mes proches, quoi. Donc, mais jeune, je voulais quand même participer à une cause qui est presque sacrée pour nous, tous les jeunes vietnamiens, qui, à ce moment-là, ont déjà une idéologie, c'est de faire de, de ramener l'indépendance de leur pays et aussi de participer au bonheur du peuple. Je vous dis, je vous parle de ces deux buts parce que même maintenant, là, c'est ce qui me fait toujours réfléchir, qui me fait aussi mal au cœur, à la tête aussi, en pensant à ces deux buts sur lesquels j'ai consacré et ma vie, et ma jeunesse, et même ma famille, quoi. Le recteur, le directeur de notre université, m'a remis mon diplôme universitaire et en même temps, la décision de m'envoyer dans le sud. Et le soir même, j'ai pris mon sac à dos et j'étais partie comme ça dans un centre d'exercice, d'entraînement. Parce que pour pouvoir faire les 2000 kilomètres de marche comme ça, il faut quand même s'entraîner. Donc, j'ai participé aux entraînements. On était très jeunes. Et puis après, on a passé quand même plus de quatre mois.
À marcher
par mont et par vaux parce que on escaladait des montagnes très hautes etc. Et puis voilà. Et puis mais là j'étais dans un groupe de presque 200 jeunes enseignants parce que on nous envoyait au sud non pas pour participer à la guerre mais plutôt pour enseigner les enfants dans les zones libérées. Mais quand j'arrivais dans le sud, la guerre au Vietnam, dans le sud de Vietnam, a changé d'aspect. Et ce n'est plus la guerre spéciale où les Américains restaient toujours, pour la forme, que des conseillers. Mais maintenant, l'armée américaine participait directement à la guerre. Donc, ils ont repris les zones libérées. Et ils ont poussé toute la population dans des hameaux, comment dirais-je, c'est-à-dire c'est comme dans des centres de concentration, hameaux stratégiques. C'est seulement quand on arrivait là qu'on savait que voilà, la guerre a changé d'aspect. On ne peut plus enseigner. On n'avait plus d'enfants pour enseigner. Donc c'est pour ça que moi je pouvais pas rester dans la section de l'enseignement, et on m'a envoyé travailler à l'agence de presse de la Libération. Alors, c'est comme ça que j'étais devenue journaliste, après seulement une vingtaine de jours de formation.
ça suffit.
Mais c'est la guerre.
Ouais.
C'est la guerre, quoi. Donc, on travaillait toujours avec le cœur et avec l'âme. Et on ne pensait même pas à sa vie. Je remercie quand même cette époque-là parce que ça m'a durci aussi. Et puis maintenant, là, je peux tout faire, quoi. Si on me demande de faire un puits, par exemple, de creuser, de faire des abris ou bien de faire même une maison, ben, je peux le faire. Mais voilà. Et c'est comme ça que, avec le métier de journaliste, je suivais aussi les troupes des soldats, pas jusqu'au front, quoi, mais je les suivais. Ou bien j'étais dans des régions très proches aussi des bases américaines. Et c'est parce que c'était très proche des bases américaines que l'armée américaine a versé des tonnes et des tonnes de défoliants pour faire une zone blanche. Pas une zone franche, une zone blanche autour de leur campement, des kilomètres blancs comme ça.
Alors pour que les gens ne puissent plus se cacher.
Pour que déjà la population ne peut plus y vivre, et surtout pour que l'armée de la Libération ne pouvait plus rester là, quoi, très loin d'eux, pour protéger aussi leur base, voyez. Donc c'est pour ça qu'ils ont détruit toute la nature, la forêt, les plaines, etc. Ouais.
Et vous, quand est-ce que vous avez su que vous avez été contaminée?
Alors là...
Beaucoup plus tard.
Ouais. 40 ans plus tard.
Ah ouais.
Oui, parce que j'ai reçu en direct comme ça une sorte de liquide gluante qui était déversé de l'avion. Ma mère, à ce moment-là, m'avait dit aussi, « Minga, c'est le sang de défoliant, mais va te baigner, va te laver. » Et puis, c'est oublié, parce que vous savez que pendant la guerre, il y a plein de choses, plein d'événements dans la journée que cet événement est passé presque inaperçu, quoi. Donc, je me suis lavée et puis c'est tout. Même si, à ce moment-là, je toussais beaucoup, je toussais, je suffoquais. Et puis, après cet événement-là, alors je commençais à avoir aussi comme la gale. Mais je croyais aussi que c'est peut-être aussi parce que la... C'est la situation de la vie, quoi, qui me fait comme ça.
Ouais. À ce moment-là, les effets n'étaient pas connus. Vous ne saviez pas ce que c'était?
Si, les effets étaient connus comme ça, mais pas pour l'humain.
Ouais, ouais, plutôt. Pour l'environnement.
Pour la nature, pour l'environnement. Parce que là, tout de suite, après les épandages, les feuilles tombées, et il n'y a que des squelettes de d'arbres comme ça. Et puis après ça, plusieurs fois encore, j'ai pataugé dans des marécages plein de feuilles mortes à cause des défoliants. On appelait toujours des défoliants. Et bon, mais naïvement, je pataugeais comme ça, je ne savais même pas. Même après avoir perdu ma première enfant, qui était née avec des problèmes cardiaques. Elle avait quand même 4 défauts dans son cœur, mais je ne savais pas. Mais je culpabilisais toujours, mais je me disais que...
Vous n'aviez pas fait le
non,
lien?
Non. Et puis, c'est seulement... vous savez que c'était passé la première fois en 1966, et c'est seulement en 2008... Quand j'ai rendu visite aux familles des victimes de l'agent orange, je me disais, mais ne serait-ce pas moi aussi victime, vous voyez? Donc, j'étais très naïve.
Parce qu'il faut expliquer que donc, ce qui est dangereux pour l'humain dans l'agent orange, c'est la dioxine qui est produite lors de la fabrication. Et donc, les maladies et les malformations qui sont causées par la dioxine se transmettent de génération en génération.
Oui.
Et ça, on le voit notamment au Vietnam où on en est à
partout.
Alors oui, il faut dire aussi que donc l'agent orange a contaminé une énorme partie du Vietnam, mais a contaminé aussi toutes les zones où il a été fabriqué, stocké et déversé. Et c'est aussi aux États-Unis, il a été aussi beaucoup utilisé, et puis dans plein d'autres pays.
Moi, je ne savais pas s'il est utilisé aux États-Unis ou non. Mais tous les soldats qui étaient soldats américains ou bien philippins ou bien australiens qui étaient au Vietnam, qui s'approchaient de cet agent, de ce poison, alors à leur retour au pays, ils sont devenus aussi victimes. Alors que là, à ce moment-là, ils ne savaient pas. Et alors que nous aussi, à ce moment-là, on ne savait pas. Oui, mais là, on était quand même surpris que beaucoup de mes amis, par exemple, étaient morts à cause des cancers, que des cancers.
Ouais.
Ouais.
En revanche, aux États-Unis, les vétérans américains ont été dédommagés par les firmes
que les vétérans américains.
Oui, pas les autres.
Même si les soldats vietnamiens qui ont combattu dans l'armée américaine et qui sont victimes aussi, mais n'ont pas été dédommagées.
Alors, comment on explique ça? Comment vous l'expliquez, vous?
Demandez au gouvernement américain. Parce que le gouvernement américain, pour dédommager, a fait quand même une liste de 17 pathologies et signaux pour eux ayant peut-être lien avec l'agent orange. Donc... Mais là, c'est seulement efficace, positif pour les Américains.
Pas pour les autres.
Pas pour les autres. Vous voyez l'inégalité et ouais, l'illégalité aussi de tout ça. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'on peut dire que c'est une forme de racisme environnemental de dédommager une partie des victimes et pas les autres? parce qu'elle serait moins importante.
Mais c'est évident. Et aussi pour nier que l'agent orange est un poison qui tue. Aussi, le gouvernement américain reconnaît la toxicité de l'agent orange. Alors, cela veut dire aussi que le gouvernement américain reconnaît aussi leur crime et ce qu'il a fait au Vietnam. Donc, c'est toujours un reniement. Et même, je peux vous dire d'avance que pour mon cas aussi, ils vont renier, quoi.
Et justement, alors, on peut en venir au procès. Donc, il y a un procès qui est en cours que vous menez contre les firmes qui ont fabriqué l'agent orange. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous en êtes venu à mener ce combat-là, qui est un peu un combat de David contre Goliath?
Et c'est ma dernière bataille.
C'est
aussi
votre dernière bataille, bien sûr. Ouais.
Et alors, quand j'ai quitté le travail de rectrice d'école et je travaillais déjà bénévolement pour aider des enfants plus malheureux que moi, parce que de toute ma vie, comme j'ai été élevée, éduquée, de compatir toujours au malheur des plus malheureux que nous, donc j'ai quitté l'État pour devenir une bénévole comme ça, pour à venir en aide aux orphelins et aux petits handicapés, par exemple. Alors, c'est comme ça que j'ai continué ma vie de combattante, comme on peut dire. Des associations françaises ont fait ma connaissance et d'autres aussi m'ont fait confiance et m'ont donné de l'argent aussi pour aller aider aux autres. Alors, c'est grâce à ces activités que je suis venue en France pour promouvoir la clientèle française et européenne. Et avec l'argent que je gagnais, alors j'apportais encore de l'aide aux enfants. Des amis m'ont dit, « Bon, mais si tu as de l'argent, vaut mieux aider les victimes de l'agent orange. » Alors, c'est comme ça que j'étais venue et visiter une province où il y a beaucoup, beaucoup de victimes. Et je vous avoue que pendant 10 jours de cette visite-là, mais je n'ai pas arrêté de pleurer parce que j'ai vu que des douleurs, que des souffrances et aussi que du courage. Et je voudrais vous parler plutôt du courage parce qu'ils sont handicapés, ils sont mal formés. Ils sont tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Une fois, j'ai rendu visite à une personne qui avait plus de 20 ans, avec l'air d'un homme de 11 ans, 12 ans, quoi. Mais il avait une bosse devant, une bosse derrière, des bras, des jambes déformées. Et il ne pouvait pas s'allonger ou bien rester ni sur son dos, ni sur son ventre, quoi. Il restait là. Et quand je l'ai vu, j'ai éclaté en sanglots. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses doigts déformés, là, il essuyait mes larmes. Et il a dit, mais pleure pas, maman. Alors là, je pleurais encore encore plus fort, mais lui, il est resté là avec son sourire, quoi. Ou bien, puis je dis, mais qui va l'aider à survivre? Ou bien, j'ai rencontré aussi d'autres mamans, c'est-à-dire d'autres épouses des anciens soldats de la première génération. Alors, le mari, avec le temps, parce que quand les jeunes s'est rentrés de la guerre, ils étaient jeunes, donc ils étaient en bonne forme, ils fondaient leur famille, ils savaient pas, dans l'ignorance. Et après, ils mettaient au monde des monstres, des handicapés. Alors, c'est à ce moment-là que le malheur arrive avec toutes les souffrances, toutes les misères. Voyez, l'épouse qui n'était pas victime, mais qui devait soigner et l'époux, et le mari, et les enfants, qui n'avaient pas pas de, de cervelle, par exemple, pas de bras ni pieds. Alors, elle, vous voyez qu'elle a une vie, non? Alors, des fois, elle me dit, mais je voulais bien me suicider. Parce que suicider, c'est déjà la délivrance. Mais quand je vois mon mari, là, et bien les enfants, mais qui est-ce qui va les soigner, prendre en charge? Et c'est cette question que maintenant aussi qui reste toujours dans ma tête et je me pose, je repose. Mais qui est-ce qui va les occuper des autres générations? La première génération peut s'en aller, mais ceux qui restent, qui vont les soigner, qui vont prendre en charge? L'État ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a de plus en plus de victimes. Alors que c'est un pays qui sort des guerres continuelles comme ça. Et puis aussi, je me demandais, parce que j'ai vu aussi que il y a des situations qui ressemblaient aux miennes aussi. Alors je me demandais si je suis aussi une victime. En revenant en France, en 2008, le tribunal international d'opinion pour les victimes de la vie aussi du Vietnam. Au Vietnam, quelqu'un déjà m'a demandé si je veux participer à ce tribunal. Mais moi, je ne voulais pas parce que je connais toute la stratégie du Vietnam. Il faut faire beaucoup, beaucoup de démarches administratives, etc. Donc, je ne veux plus de ça, alors que j'étais sortie du travail de l'État, là. Donc, j'ai dit non. Mais en France, j'ai vu quand même l'annonce de ce tribunal. Et moi-même, alors, j'ai écrit une lettre aux organisateurs. Et c'était marrant parce que j'ai écrit comme ça sans... J'ai écrit que je vous demande de me laisser participer, témoigner à ce tribunal, non pour moi, mais pour... J'ai dit... Pour ceux qui ne peuvent plus parler et pour ceux qui ne peuvent pas venir en France pour témoigner. Parce que vous savez qu'il y a une chose qui me taraude toujours, c'est la disparition de plusieurs de mes camarades, de plusieurs de mes amis qui sont tombés pendant la guerre en laissant leur jeunesse et toute leur vie. Donc, j'ai toujours l'impression de vivre aussi leur vie et pour eux aussi. Alors, c'est pour ça que je dis que je veux aussi parler au nom de ceux qui ne peuvent plus parler, quoi. Alors, c'est après qu'on me racontait que les organisateurs étaient très surpris de voir, mais il s'interroge, mais qui est cette femme là qui ne suit aucun principe et qui tombe du ciel comme ça pour demander de témoigner ils n'ont pas confiance, quoi. Ils n'ont pas confiance, ils ont refusé.
Ah bon,
au début ils ont refusé. Et pendant une nuit, j'ai écrit mon témoignage en vietnamien et puis après, j'ai le traduit en français et c'est venu comme ça, quoi. Il y avait trois témoins venus du Vietnam. Il y en a d'autres venus des États-Unis ou bien coréens, etc. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs témoins et moi, j'étais la quatrième des témoins vietnamiens. Donc, on me dit toujours que je suis la dernière, quoi. Comme j'étais presque l'unique personne qui vivait l'épandage sur place. Donc, quand on me posait les questions, je pouvais décrire aussi ce qui s'était passé en réalité. Et il paraît que mon témoignage a touché le cœur aussi des assistants. C'est pour ça que... À ce moment-là, Maître William Bourdon et André Bouny étaient déjà au Vietnam, avaient déjà rencontré le premier ministre de l'époque, et William Bourdon a a promis au Premier ministre de faire, d'aider les victimes de la Léocine, de faire un procès contre les firmes américaines s'ils arrivent à trouver une victime française. Donc là, je ne savais pas.
Et vous, vous n'étiez pas française à l'époque ?
Si, déjà.
Ah, déjà ?
Déjà. Okay. Parce que j'ai reçu le...
La Légion d'honneur.
La Légion. Et puis après ça, j'ai reçu aussi la nationalité française.
D'accord.
Donc, André Bonny s'est approché de moi. Il a dit, mais madame, est-ce que vous voulez faire un procès ? J'ai dit non. J'ai déjà de l'âge, hein, ouais. Comme on dit. Et je suis...
Donc là, on parle d'un procès contre Monsanto...
Contre les firmes américaines.
Dow Chemical, etc.
Oui, contre les firmes américaines qui ont produit de l'agent orange pendant la guerre de Vietnam. Et puis, j'ai dit non, parce que je suis vieille et je suis quand même satisfaite de ma vie, quoi, de mes activités, parce que j'essayais toujours de me rendre utile. Donc, j'ai dit non. Mais après, ils m'ont... des amis vietnamiens et André Bonny aussi m'ont convaincu, m'ont expliqué que si je ne le fais pas, personne d'autre ne pourrait le faire.
Ouais.
Ouais. Et quand même, il y a déjà plus de 3 millions de victimes au Vietnam et encore des milliers dans d'autres pays. Mais personne d'autre que moi n'aurait les moyens et les conditions de le faire.
Et c'est la dernière chance.
Oui, c'est la dernière chance. Et si je refuse, alors on ne peut plus rien faire pour les victimes de l'agent orange, quoi. Parce que les trois conditions, je peux passer aux trois conditions.
Oui, bien sûr.
Les trois conditions, c'est que il faut que le pays qui donne droit aux avocats de faire des procès multinationaux et cette loi-là. Et à cette époque-là, il y avait trois pays, dont la France, la Belgique et l'Espagne. Mais la Belgique et l'Espagne ont refusé de le faire parce qu'il y a des problèmes avec les États-Unis à cause des autres procès. Donc, restait toujours la France. Donc, la France, à ce moment-là, possède une loi autorisant les procès multinationaux aux avocats français pour défendre leurs citoyens français. Donc, j'étais en France. Je suis citoyenne française en même temps que citoyenne vietnamienne. Et il faut aussi qu'on soit victime de l'agent orange. Mais pour être victime de l'agent orange, il faut quand même... subir aussi les épandages
directement
oui. pour qu'il y ait quand même des séquelles. Donc j'ai rassemblé ces trois conditions alors que les victimes vietnamiennes ont été déjà déboutées par les tribunaux américains, donc ils n'ont plus le droit de déposer une plainte ni dans leur pays ni aux États-Unis. Les victimes américaines qui étaient des milliers, mais ils ont déjà reçu l'argent des dédommagements. Maintenant, ils n'en ont plus, hein. Mais à ce moment-là, ils en ont. Alors, avec la promesse de ne plus porter plainte, donc il n'y a plus personne, quoi. Alors, si je ne le fais pas pour son... parce qu'à ce moment-là, on n'arrivait pas à découvrir autre victime que moi.
Personne. Ouais. Donc, c'était votre mission, quoi.
Comme on dit. Mm. Ouais. Alors, finalement, j'ai dit, mais... Et puis, ce procès, c'est pour frayer quand même un chemin vers la justice pour les autres. C'est-à-dire qu'on fait une jurisprudence. Donc, je dis, mais si, c'est comme ça, mais je le fais. Alors, Maître Bourdon m'a quand même signalé qu'il faut bien réfléchir. Parce que ce serait très long et très dur. On n'est sûr de rien. Si vous le faites, il y a une autre option. C'est la négociation hors tribunal. là, vous serez sûr de recevoir une somme argent, peut-être, d'argent peut-être énorme, mais on ne fait rien. André Bouni a dit tout de suite non, et bien sûr, moi aussi, je dis non. Alors, c'est comme ça que, à nous trois, on a décidé de foncer. Quoi.
Et ça, c'était en 2009. Ça fait déjà 11 ans. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès ? En octobre, là, il y aura les plaidoiries, c'est ça ?
Oui. Ouais. Donc, on approche du final.
Ouais.
Tout d'abord, avant, mais j'étais naïve aussi. Avant, quand j'ai commencé ce procès, je pensais que si on gagne, alors toutes les victimes de l'agent orange pourraient me suivre et faire aussi leur procès à eux. C'est comme ça la jurisprudence. Oui, mais maintenant, j'arrive quand même à comprendre que même si on gagne, il faut aussi que les gouvernements aient le courage du gouvernement français. Mais je ne sais même pas si aujourd'hui, le Macron, lui, il est conscient de ça. Alors que si on gagne, mais il faut que le gouvernement vietnamien, australien, canadien, américain, par exemple, ait le courage, comme la France, de donner droit aux avocats de leur pays
de défendre. Ouais.
Deuxièmement, c'est que avant, pour un procès civil, le but final, c'est d'être dédommagé. Donc, très longtemps, mais on pensait à ça, même si je me disais toujours, et je me dis aussi aujourd'hui, que s'il y a un dédommagement, alors ce serait quand même au profit des victimes de l'agent orange. Mais maintenant, j'ai bien réalisé que ce n'est pas ça notre but final. Parce que bien sûr, le but final d'un procès, c'est de gagner. Gagner, c'est d'être dédommagé. Mais pour ce procès, alors comme Maître Bourdon a dit que c'est un procès unique, c'est un procès politique, c'est un procès historique, et il n'y aurait pas d'autre procès aussi. Alors, déjà, Monsanto, qui n'a jamais répondu à aucune plainte dans le monde, il s'est constitué quand même auprès de notre tribunal. Voyez, et j'ai assigné 26 firmes. Il y a déjà 19 qui se sont constituées. Et ces 19 firmes qui ont suivi depuis 6 ans, qui ont créé plein d'incidents pendant ces 6 années, ils ont loué en tout 38 avocats. 38 avocats. Donc, nos 3 avocats qui travaillent depuis 11 ans, presque 12 ans, bénévolement, gratuitement, ont face à eux 38 de leurs collègues, parce que ce sont des avocats français aussi.
Parce que le but, c'est pas de gagner, mais c'est de faire parler.
De faire connaître le drame, le crime, le drame de l'histoire. Ouais. Et ça, on a bien gagné.
Ouais. Je crois. Ouais. Les firmes agrochimiques, elles disent que à l'époque, elles ne savaient pas que le produit était dangereux.
Mais si.
Non, mais je me doute, mais c'est ce qu'elles disent. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des rapports un peu truqués, des experts payés aussi par les firmes pour dire.
Non, tout ça, on a des archives que Monsanto et les autres firmes ont déjà prévenu le gouvernement qu'ils n'ont pas le temps d'éliminer la dioxine dans ces produits, et aussi l'ordre du gouvernement de dire que si on vous commande, vous faites ce qu'on vous commande. Alors c'est pour ça qu'en pleine connaissance, ils ont fait leur crime, quoi. En pleine connaissance. Là, on a des archives, on a des témoignages, des preuves, ouais. Parce qu'il y a autre chose qu'on craignait toujours et puis qu'on peut craindre pour l'éternité, c'est qu'ils vont renier le lien entre mes pathologies avec l'agent orange. Oui, donc là, c'est un sujet où on peut discuter jusqu'à la fin du monde. Alors, si le juge voit quand même ce que c'est que les séquelles de l'agent orange, ce que sont les souffrances que les victimes de l'agent orange subissent maintenant, alors là, peut-être ça va toucher le cœur et il serait objectif. Moi, je ne pense pas que. Je ne demande pas qu'il me donne une faveur, mais je demande qu'il soit objectif seulement. Et si on me donnerait la parole au plaidoirie, je voudrais bien dire que je vous invite, monsieur le juge, je vous invite aussi, les avocats des firmes américaines, de venir avec moi au Vietnam, de rencontrer les victimes, mais même si vous ne voulez pas aller au Vietnam, allez avec moi aux États-Unis, par exemple, et rencontrez les victimes. Et je ne pense pas qu'à ce moment-là encore, là, vous aurez le cœur de défendre ceux qui ont commis des crimes monstrueux et qui tuent encore aujourd'hui. Est-ce que j'aurai la parole?
Je suis sûre que vous aurez la parole. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Donc tu es donc Léa Dang, tu es journaliste et tu représentes le collectif Vietnam Dioxine. Est-ce que tu peux peut-être présenter un peu ce collectif et les actions que vous avez menées?
Alors le collectif Vietnam Dioxine est un collectif de militants et militantes qui a pour but d'œuvrer à la reconnaissance du drame de l'agent orange dans le monde. Donc la reconnaissance à la fois juridique, en accompagnant le procès de Trintonia et en essayant du mieux qu'on peut de le médiatiser et de tenir les gens au courant, mais aussi de sensibilisation plus large de l'opinion publique en France et dans le monde, parce que même au Vietnam, en fait, il y a énormément de jeunes, de Vietnamiens, de Vietnamiennes qui ne sont pas au courant de ce drame, enfin, qui ne savent pas ce que c'est l'agent orange. Moi-même, ayant un grand-père vietnamien, j'ai appris ce qu'était l'agent orange et qu'il y avait des millions de personnes concernées quand j'avais 19 ans. Je trouve ça très tard parce que on est censé apprendre, pas très vaguement, mais très rapidement, la guerre du Vietnam au collège et au lycée. Et en fait, il n'y a aucune ligne. Enfin, moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Les personnes que je connais aujourd'hui qui travaillent avec nous l'ont pas appris à l'école non plus. C'est souvent via des émissions ou via le collectif. Donc j'ai voilà, on a remarqué qu'il y avait un grand trou médiatique, éducatif sur cette question. Pourtant, la diaspora vietnamienne en France, c'est la deuxième dans le monde après celle des États-Unis. Donc ça représente plus de 300 000 personnes. De Vietnamiens d'origine vietnamienne et c'est vrai qu'il y a un énorme manque sur ce sujet. Voilà, le collectif a d'abord cette visée informative. Le collectif en fait regroupe plusieurs associations qui sont directement en lien avec le Vietnam et du coup en travaillant ensemble, on arrive à créer des projets avec ces associations comme la VAVA, qui est une des premières associations d'aide aux victimes au Vietnam. Et pour vous parler des récentes actions, justement, le 10 août, nous avons réalisé les 36 heures de live pour les victimes de l'agent orange. Donc c'était une sorte de téléthon, finalement, où plus d'une quarantaine d'artistes ont performé en plus de conférences, quoi d'autre, oui, voilà, des danseurs, des chanteurs pendant 36 heures non-stop, donc en live au Vietnam et en France, puisqu'il y a plus de 800 personnes vietnamiennes enfin, au Vietnam qui nous ont suivis. Et à travers cette action, l'argent récolté sert a financé deux projets de microcrédit, en plus de financer des opérations chirurgicales pour les victimes au Vietnam. Donc voilà, ça c'est pas nous directement, mais c'est les associations partenaires qui s'en chargent. Et c'est vrai que ce premier téléthon, on va dire, pour l'agent Orange, pour les victimes de l'agent Orange, a eu vraiment un énorme succès.
Et comment toi tu arrives à expliquer que justement l'agent Orange et le désastre de la dioxine n'est pas plus connu, que cette histoire ne soit pas plus médiatisée?
Alors, en discutant avec des historiens sur la question, parce que ça, c'est une des choses qui m'a marquée, m'a mise en colère, m'a attristée, c'est que énormément de personnes, énormément de Vietnamiens souffrent dans le silence, en fait, puisqu'on n'en entend pas parler. Et il y a plusieurs raisons. Premièrement, le Vietnam ne communique pas énormément sur la question non plus. En fait, après-guerre, les relations avec les États-Unis, le Vietnam, en fait, était en plein développement après la guerre et les États-Unis ont investi massivement au Vietnam économiquement. Et en fait, les relations diplomatiques ont fait que le Vietnam ne s'est plus trop positionné sur cette question. Et en plus de ça, il y a encore des tabous que j'ai moi-même vu quand je suis allée au Vietnam en 2017. Je travaillais pour une association et je prenais des photos en fait des biens des victimes pour après constituer les dossiers pour les aides financières. Et quand les personnes dans les villages un peu reculés nous recevaient, moi j'étais chargée d'aller un peu plus loin, de prendre des photos. Et en fait, les personnes handicapées étaient toujours cachées dans d'autres pièces. Donc, j'en avais discuté avec les représentants associatifs à ce moment-là. Et en fait, beaucoup de personnes au Vietnam pensent qu'ils sont responsables de la maladie, du handicap de leur enfant. Ça reste encore des croyances, je ne dis pas majoritaires, mais les associations, par exemple, ont du mal à trouver les victimes parce qu'elles se cachent.
D'accord. Mais parce que, en fait, les gens ne sont pas au courant, même au Vietnam, que les millions de personnes, d'enfants, d'adultes qui vivent avec des malformations, des handicaps quand même très lourds, sont liés à l'agent Orange.
Alors non, je pense vraiment pas, ils ne sont pas au courant. Ma famille, toute ma famille au Vietnam n'était pas au courant. Par exemple, dans les programmes éducatifs, ils n'apprennent pas ça lors de la scolarité. Mon petit cousin à 15 ans, en fait, il s'est intéressé à la question quand je suis allée au Vietnam et il m'a accompagnée voir des victimes, etc. Mais c'était pas quelque chose qu'il apprenait à l'école, par exemple. Je dis pas que c'est c'est le Vietnam dans son entièreté. Hein. Je pense qu'il y a des gens mobilisés, qu'il y a des écoles mobilisées, etc. Et qu'on en parle quand même. Mais même au Vietnam, plein de personnes de toutes générations ne sont pas au courant. Et en France, c'est la même chose. Quand on demande à des personnes s'ils connaissent le drame de l'agent Orange, la majorité aujourd'hui vous diront que non. Maintenant, un peu plus aussi grâce au procès de Trantonia, qui est de plus en plus médiatisé, et aux activités du collectif, mais ça reste quelque chose de peu connu. C'est pour ça qu'on va travailler avec les écoles pour sensibiliser, et on l'espère aussi pouvoir changer les manuels scolaires et rajouter quelques lignes sur ce qui se passe actuellement au Vietnam, et que ça soit plus seulement une page historique. Mais j'ai remarqué que même dans les documentaires et la presse magazine historique, moi dès qu'il y a une parution sur le Vietnam, je m'empresse de l'acheter ou de visionner sur Arte. Et en fait, même à ce niveau-là, quand on parle de la guerre du Vietnam, on ne parle pas toujours des épandages d'agents Orange et des conséquences que ça a aujourd'hui sur les populations.
Ouais, sur les populations et aussi sur le sur l'environnement là-bas, parce que d'après ce que j'ai compris, même les endroits où il y a des rizières, etc., tout continue à être contaminé pour des centaines ou des milliers d'années, quoi.
Mmh. Oui, oui. Bah, il y a encore 28 hotspots, donc des endroits qui ont été contaminés à la dioxine de manière importante. Et aujourd'hui encore, ces hotspots, la quantité de dioxine est quasiment égale à celle enregistrée après les épandages. Donc on ne se rend pas compte à quel point ce poison se maintient dans l'environnement, dans les corps, puisqu'il se transmet de génération en génération, et à quel point c'est difficile de se débarrasser de la dioxine.
Mmh. Et qu'est-ce que le collectif attend ou espère du procès ?
Bien sûr, on attend une réponse positive, que les sociétés soient condamnées, et non pas qu'il y ait un accord financier comme ça a été fait pour les vétérans américains et une indemnisation, donc, c'est-à-dire payer pour avoir le silence finalement des victimes, mais avoir une condamnation. Bon, bien sûr, ça c'est l'objectif. Symboliquement, ça serait énorme. Et le collectif, ensuite, on a vraiment pour objectif de faire reconnaître ce crime de guerre comme un crime contre l'humanité, puisque ça touche des millions de personnes et de façon monstrueuse, parce que je ne sais pas si on peut réaliser le drame que c'est. Il y a des enfants naissent avec des malformations terribles de naissance, sans yeux, sans bras, avec des tumeurs externes. Ça a détruit des lignées familiales. Et les familles sont épuisées. Tout le monde ne bénéficie pas d'aide financière là-bas. C'est extrêmement compliqué, surtout les familles les plus pauvres. Quand j'étais au Vietnam, j'ai rencontré une famille qui n'avait pas de quoi envoyer un courrier, quoi. Qui n'avait ni les ressources financières pour acheter un timbre, c'était déjà quelque chose. Et puis, pour comprendre tous les mécanismes administratifs pour pouvoir bénéficier d'aide financière, c'était compliqué pour eux, quoi. Et c'est ce type de situation qui est insupportable quand on rencontre des victimes. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois un besoin humanitaire immédiat et une nécessité d'un travail de mémoire et de reconnaissance juridique.
Ouais. Peut-être pour finir, comment est-ce qu'on peut aider le collectif ?
En nous rejoignant, parce qu'on a besoin de toutes les énergies, surtout que les prochaines actions vont être importantes, et cette année est particulièrement importante pour le procès de Trentonia, car il entre dans une phase active. Donc là, le 12 octobre, on organise une large mobilisation devant le tribunal d'Évry, car c'est là qu'a lieu le procès, et le 12 octobre, c'est la date des plaidoiries. Donc on attend beaucoup de ce moment, et aussi, on attend beaucoup de monde pour faire parler du procès.
Merci beaucoup, Léa.
Merci beaucoup.
Merci infiniment à Trentonia pour cette conversation et merci à vous toutes et tous pour votre soutien et votre écoute. Vous pouvez toujours partager les épisodes s'ils vous ont plu et mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Vous pouvez également soutenir le collectif Vietnam Dioxine. Rendez-vous sur vietnamdioxine.org. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawel, mixé par Paloma Colombe. À très vite. Spectre.